Deuxième partie, chapitre 1. La parenthèse africaine s'était refermée, comme une fleur éphémère trop vite flétrie sous le dernier rayon du crépuscule. Dans les ténèbres qui s'épaississaient autour de lui, Jean-Louis Bayot ne devait plus compter que sur lui-même. Son amour pour Chantal, il le savait, était condamné. Et il s'en voulait un peu d'avoir accepté, ce dernier jour de vacances, de l'accompagner chez sa mère. « Tu verras, Jean-Louis. Ma mère est un petit joyau que je ne présente qu'à mes vrais amis, » déclara Chantal, tandis qu'il roulait vers Rouen. « Je te demande simplement d'oublier ta hargne habituelle. Ça pourrait la blesser. Tu sais, maman ferait une belle-mère bien différente de celle de ton affreuse attachée culturelle. Mais rassure-toi, je ne dis pas ça pour te forcer la main. » Jean-Louis Bayot avait simplement souri. Il savait qu'il n'épouserait pas Chantal. Il avait trop, pour cela, le sens du ridicule. Encore quelques semaines, il aurait disparu pour toujours. Il en était de plus en plus certain, maintenant. Ce voyage au Kenya l'avait épuisé. Une petite fièvre s'était déclarée, à son retour à Paris, et les médicaments faisaient de moins en moins d'effet. Peut-être la décision du ministère serait-elle inutile, et arriverait-elle le jour où, de son plein gré, il se serait de lui-même mis en disponibilité pour toujours. Le suicide ne lui avait jamais fait peur, et lui avait toujours paru, au contraire, la seule réponse raisonnable que les forts puissent donner aux mystérieuses fantaisies de la nature. La maison des Riac se trouvait à l'entrée de Rouen. C'était une vieille bâtisse à deux étages, couverte de lierre et entourée de rhododendrons. Madame Riac les attendait, et elle ressemblait au portrait que le médecin n'avait pu s'empêcher de tracer d'elle. Elle ne cherchait pas à cacher ses 70 ans, et la limpidité de ses yeux verts lui donnait un certain air de jeunesse qui contrastait avec la blancheur de ses cheveux. Ils s'installèrent dans le petit salon, et Madame Riac alla chercher le café. Il était entendu que Bayot ne resterait à Rouen qu'une partie de l'après-midi, car il ne voulait pas manquer son habituel rendez-vous avec Yves de Lambert, qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de revoir. Ils échangèrent pendant une heure quelques banalités sur l'Afrique. Bayot fut tout de suite séduit par le charme tranquille qui se dégageait de la vieille dame, veuve d'un officier mort à Dien Bien Phu. Chantal était sa seule enfant, et Bayot comprenait maintenant pourquoi elle prenait à chaque week-end la route de sa maison familiale. Ce devait être pour sa mère le seul rayon de soleil dans l'épaisse grisaille de ses jours. J'ai évidemment beaucoup entendu parler de vous au cours de ces dernières années, murmura Madame Riac, et surtout au cours de ces dernières semaines. J'avoue que ce voyage au Kenya m'a beaucoup surprise, et je ne sais trop, monsieur, si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Elle arrêta d'un signe sa fille qui voulait l'interrompre. Chantal est ma seule enfant, comme vous le savez. Et en un sens, c'est ce qui a été la grande peine de ma vie, car j'avais toujours rêvé d'une grande famille. Mais, hélas, on ne peut rien contre les volontés de la Providence. J'aurais beaucoup aimé connaître votre mari, madame, déclara le professeur Bayot, comme pour remplir un silence. Oh, je crois qu'il est préférable que le colonel Riac soit mort. Pourtant, avec lui, ma vieillesse aurait été moins solitaire. Mais il serait malheureux, car aujourd'hui on le prendrait pour un imbécile. Il croyait qu'il avait une mission à remplir en Indochine. Fils de paysan, il s'imaginait qu'il fallait défendre le drapeau français où qu'il soit. Maintenant, il n'y a plus que le drapeau rouge ou le drapeau noir qui compte. Voyez-vous, monsieur, vous et moi ne vivons pas dans le même univers. Notre vie était plus difficile que la vôtre, mais tout était si simple. La morale était celle de l'Église. La nation était ce qu'il convenait de défendre, alors qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut détruire avant tout. La famille n'était pas remise en question. Jamais une jeune fille célibataire n'aurait accepté d'aller ainsi au Kenya. Ne croyez pas que je cherche à vous critiquer. Vous êtes de votre temps. Elle se tut un instant et emplit de nouveau la tasse du médecin. Oui, tout était simple, reprit-elle. Le dimanche, il y avait la messe avec la communion chaque fois que c'était possible. Nous n'étions pas des saints, mais nous admettions nos erreurs. Nous ne cherchions pas à accuser la société ou l'inconscient. Le mal, nous le savions bien, venait de nous. Nous nous sentions responsables de nos actes. Il n'y avait pas de loisirs organisés, ou si peu, et pourtant la vie était plus joyeuse. Pendant toute mon enfance, je n'ai pratiquement jamais quitté Rouen. Il ne s'y passait rien, mais l'ennui nous était inconnu. Je devine ce que vous pensez tous les deux. Vous vous dites que lorsqu'on vieillit, on cherche à embellir son passé et à lui trouver une douceur qu'il n'avait pas. C'est possible, mais franchement, regardez notre époque. C'est à qui sera le plus morose et le plus sinistre, de Michel Debré à Georges Marchais. Les gens d'esprit sont en exil. Ils ont laissé la place à des pleurards professionnels, tous coulés dans un même bain d'amidon. Et les jeunes Français ne sourient même plus. Ils ricanent. Voilà ce qu'est devenu le pays de la douceur de vivre. Elle fit distraitement tourner sa tasse dans la soucoupe, puis se tourna vers le médecin. « Vous devez vous demander ce que je fais à longueur de journée, » reprit-elle. « Eh bien, je lis. Je lis énormément. Mais cette époque ne produit presque plus rien. La littérature est desséchée comme une trique. Plus d'histoire, plus de personnages, plus de syntaxe. Des anthologies pour analphabètes. Et quand par hasard il y a quelque chose d'intéressant à paraître, il faut être une vieille fouineuse comme moi pour le découvrir. Car la plupart des critiques ne s'intéressent plus qu'aux hiéroglyphes. Heureusement, j'ai été institutrice pendant 30 ans et ma bibliothèque est bien garnie. » Jean-Louis Bayot sourit à la vieille dame. « J'avoue, madame, que je me suis souvent fait la même réflexion. Ça me fait plaisir de ne pas être seul à penser ainsi. Mais combien y a-t-il encore de gens en France à savoir lire? Avez-vous remarqué combien les prêtres sont ignorants aujourd'hui? Non, évidemment, un homme comme vous ne doit plus aller à l'église. Je dois avouer que je ne sais plus moi-même si j'y vais par habitude ou par conviction. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir été berné. Pendant des années, les prêtres nous ont fait croire à certaines choses. On les croyait sur parole. Naïvement, j'en conviens. Encore une fois, nous n'avions pas l'habitude de contester. Puis, plus rien. Et me voilà obligé de faire 4 kilomètres pour aller entendre une messe où je ne me sente pas complètement perdu. On ne parle plus de péché, il n'y a plus que des aliénations. On ne parle plus des évangiles, ce sont des mythes, sauf si on réussit à y trouver une vague coloration politique. Il paraît que le Christ était révolutionnaire et qu'aujourd'hui il ferait des barricades et se battrait contre les CRS. Il y a des curés qui sont pour le mariage à l'essai, d'autres qui se croient obligés de se droguer pour faire comme tout le monde. Les mouvements d'action catholique travaillent la main dans la main avec les gauchistes. Ils sont contre le baptême des enfants et la communion solennelle. Je n'en finirai pas de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Alors, je ne sais plus. Oui, berné, voilà ce que nous avons été. On ne peut pas changer à mon âge. Alors, on continue comme avant, par habitude. Vous, au moins, monsieur, vous n'avez pas ces problèmes-là. J'en ai quelques-uns qui n'en sont pas très éloignés, murmura Bayot, qui aurait voulu dire quelque chose pour soulager cette femme. Au-delà des ans, c'était la voix de sa mère qu'il lui semblait entendre. Chantal non plus ne croit plus à rien. Elle est sûrement surprise que je le sache. Quand elle vient me voir, elle continue d'aller à la messe pour me faire plaisir. Une mère ne s'y trompe pas. Voilà le résultat de l'éducation que j'ai essayé de lui donner. « Maman, » s'écria Chantal, « tu me fais mal. » « Je sais bien, ma pauvre petite. Aujourd'hui, nous passons tout notre temps à nous faire mal. Oh, je ne t'en veux pas. On a tort de croire que ces enfants sont différents des autres. D'ailleurs, à quelle église se rattacher? À la petite église rabougrie des vieilles bigotes comme moi qui s'accrochent à leurs missels écornés comme des naufragés à une planche? À celle des militants politiques? À celle des surprises parties et des concerts de jazz? À celle qui fait l'impossible pour supprimer l'enseignement catholique? Après tout, c'est peut-être notre faute, à nous. Nous n'avons pas réagi à temps, et c'est vrai que la société n'était pas parfaite. Les réformes, c'était il y a 100 ans qu'il fallait les faire. J'avais rêvé d'une vieillesse heureuse. Jadis, les vieillards vivaient au jour le jour, mais ils étaient entourés d'affection et de respect. La mort ne leur faisait pas peur. On croyait les prêtres quand ils disaient que nous irions au ciel si nous avions été bons. Après tout, de quoi ai-je à me plaindre? Je vis modestement, mais la maison m'appartient. On ne me mettra pas dehors pour m'envoyer dans un de leurs mouroirs. Vous imaginez, monsieur, en plein XXe siècle, on ne sait plus quoi faire des vieillards. On les envoie mourir comme des bêtes, et j'imagine que certains de vos confrères trouvent encore le moyen de s'enrichir sur leur dos à bon compte. N'exagérez pas, madame. Pour un cas exceptionnel, il y a tout de même bien des médecins dévoués et désintéressés. Dévoués, il y en a sûrement beaucoup. Désintéressés, il doit bien y en avoir un certain nombre. Bah, j'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent. Dans une civilisation où la haine tient lieu de religion, il ne faut pas s'attendre à rencontrer des docteurs Schweitzer à tous les coins de rue. Les médecins ne sont ni meilleurs ni pires que les autres. Excusez-moi. Ne me jugez pas aussi injuste que je le parais, mais je sais ce dont je parle. Je m'occupe des vieillards dans les hospices. J'essaie de leur apporter un peu d'espoir dans leur univers de désespoir. J'ai vu des choses qui m'ont fait rougir. Rougir d'être française, et peut-être même rougir d'appartenir à une humanité si inhumaine. Oh, évidemment, je ne demande pas qu'on les assassine. J'aimerais seulement qu'ils puissent mourir dignement, avec le sentiment de n'avoir pas été inutile. Les vieillards, on ne pense à eux qu'au moment des élections, et quand on veut créer de nouveaux impôts comme la vignette. Vraiment, il y a des jours où j'en arrive à regretter d'être en vie. Bayot reprit seul le chemin de Paris. Il se sentait las de voir autour de lui tant et tant de détresse. Qu'avait-il donc fait pendant 25 ans? Il se rappelait le verset de la Bible « Ils ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ». Avait-il vécu en aveugle pendant 25 ans? Et surtout, comment se faisait-il que depuis quelques semaines, le monde lui apparaissait sous un jour nouveau, que les masques tombaient, que les confidences lui faisaient entrevoir des désespoirs qu'il n'avait jamais soupçonnés? Jusqu'alors, tout avait été si simple. Il y avait la maladie qu'il fallait vaincre. Mais n'était-ce pas une abstraction qui lui avait fait oublier ceux qui souffrent? Pourquoi fallut-il soudain que le visage de ce jeune homme de 30 ans lui revint en mémoire? Un spécialiste le lui avait envoyé, le soupçonnant d'être atteint de cette maladie de Hodgkin dont lui-même souffrait aujourd'hui. Il se revoyait dans son bureau, évoquant l'évolution du mal avec son ami Lambert. Oui, la splénomégalie est bien marquée. Le ganglion est très apparent, mais totalement indolore. Quelques adénopathies médiastinales. Une lymphographie pourrait s'avérer de quelque intérêt. Tu as vu sa numération? Un peu trop de leucocytes. Et la température? Avait demandé Lambert. Regarde le dossier. Elle s'est stabilisée à 38,5, après avoir ondulé pendant plusieurs semaines. Il se peut que ce soit la période terminale, car la perte de poids est continue et l'anémie est de plus en plus marquée. Des douleurs? Pratiquement aucune, si ce n'est une certaine difficulté respiratoire. Il ne se rend compte de rien. L'homme était mort 3 semaines plus tard, sans que ni Bayot ni Lambert aient pu tenter quoi que ce soit. Cela, Bayot le savait depuis le début, et peu à peu ses visites aux malades s'étaient faites plus rapides, comme si chaque matin il était gêné de le trouver encore là. Il avait prévenu la femme du malade 15 jours avant l'échéance fatale. Et celui-ci était mort dans son sommeil. Peut-être rêvait-il d'une vieille maison, avec du lierre et des rhododendrons, à moins que ce ne fût du sourire de sa petite fille qu'il ne reverrait plus. Dès le lendemain, le dossier avait été classé. mais on l'avait exhumé de la poussière 3 ans plus tard. Bayot s'en souvenait parfaitement. Il avait constitué un des cas les plus intéressants d'une thèse sur la lymphogranulose maligne qui avait obtenu les félicitations du jury. Un dossier. Un cas. Voilà le plus souvent à quoi se réduisait l'existence éphémère d'un malade. Que pouvait-il faire d'autre? Bayot se reprocha son égoïsme et sa sécheresse. Ne pouvait-il pas au moins servir à quelque chose et accepter, par exemple, qu'on se livrât sur lui à quelque intéressante expérience? Il connaissait les progrès réalisés à la suite de l'aparotomie et savait que certains de ses plus éminents confrères préconisaient l'ablation de la rate. Il pourrait également accepter de prendre les médicaments nouveaux ou de se prêter à quelques récentes techniques d'irradiation à hautes énergies. Lambert aurait pu rédiger ainsi un bel article qui serait publié dans les mémoires de l'Académie de chirurgie ou dans la revue d'hématologie. Mais Bayot doutait que cette sanglante mascarade pût faire avancer le traitement de la maladie de façon spectaculaire. Les rémissions ne l'intéressaient plus. Et tant que l'étiologie de la maladie ne serait pas connue et traitée, les Hodgkiniens, comme on les appelait, resteraient des morts en sursis. Pour intéressante qu'elle fût, une intervention chirurgicale ne restait qu'un pis-aller. L'idée, cependant, fit son chemin en lui, et, en arrêtant sa voiture près de son appartement, il se promit d'en parler à Lambert. Celui-ci arriva vers 10 heures. Il ouvrit sa serviette pour en sortir sa précieuse bouteille de whisky, puis les deux amis, tout à la joie de se retrouver, discutèrent pendant près de 2 heures du voyage au Kenya. « Tu ne me dis pas comment va ta santé ?» fit Lambert, en servant un grand verre d'alcool à Bayot. « Calme plat. J'ai eu une poussée de fièvre au début de la semaine, mais les médicaments semblent avoir fait de l'effet. Je ressens une vague douleur dans la région médiastinale. Je me fais sans doute des idées. C'est tout aussi bien dû à la fatigue qu'à une possible apparition de nouveaux ganglions. Si tu es d'accord, je te ferai lundi une lymphographie et d'autres examens complémentaires. Ça n'apportera rien de nouveau. Enfin, si tu y tiens. D'ailleurs, c'est ce que je ferai à ta place. Tout médecin est un malade qui s'ignore, même s'il n'est pas un psychiatre. Et toi, où en es-tu? Oh, moi, il y a belle lurette que je ne me fais plus de biopsie où je pense. C'est psychologique, comme on dit. Il faudrait m'ouvrir le cerveau et voir s'il n'y a pas une cellule de coincée quelque part. Tu parles, j'ai avalé plus d'alpha-tocopophérol qu'un bataillon de nuque en cours de recyclage. Rien à faire. A-t-on jamais vu chose plus idiote ou plus ridicule qu'un médecin impuissant? Oui, un gynécologue homosexuel. Tu n'as pas songé à voir un psychiatre? Ton copain de Rennes, par exemple. Pourquoi pas un psychanalyste, un homéopathe ou un chaman, tant que tu y es? Bayot éclata de rire. Décidément, les médecins étaient des gens impossibles à soigner. Mais soudain, il sentit une sueur glacée l'envahir. Un vertige le fit s'agripper au rebord du fauteuil. Dans son geste, son verre de whisky presque vide tomba par terre. Lambert s'était précipité vers Bayot et l'avait allongé sur la moquette tout en lui dégrafant sa cravate.
« Nom de Dieu, tu ne vas quand même pas passer l'arme à gauche. Hé, Jean-Louis !»
Celui-ci voulut parler. Il ouvrit les yeux et aperçut le visage de son ami qui se penchait vers lui comme à travers un brouillard. En même temps, il ressentait dans le cerveau un martèlement rapide. Il pensa qu'il allait s'évanouir. Il serait bon de mourir ainsi, sans plus attendre, sous le regard de son ami. Il serra les poings très fort et réussit à lutter contre l'engourdissement. Il claquait des dents de façon incontrôlée et ne savait plus s'il avait chaud ou froid. Il entendait dans le lointain la voix d'Yves de Lambert.
« Ta tension est tombée à 8, rien de grave. Tes battements cardiaques sont un peu accélérés. Ton pouls est filant. Apparemment, tu fais un petit accès fébrile. Je vais te faire une injection d'Eptamil. »
Bayot sentit à peine le pincement du garrot et la piqûre de l'aiguille. Il tentait de réfléchir,
de se souvenir de quelque chose qui lui échappait au moment même où il croyait la saisir. En même temps, le visage de Madame Rieck lui apparaissait, très flou, comme dans un rêve. Puis ce fut le visage de sa propre mère qui lui sourit. Il songea soudain à la charge des éléphants dans le parc de Tsavo. Les images défilaient à toute vitesse dans un désordre total. Brusquement, il sut ce qu'il cherchait, l'origine de son malaise. Il avait sans réfléchir accepté le verre que lui tendait son ami. Il savait bien pourtant que la maladie de Hodgkin peut, dans certains cas, provoquer une intolérance à l'alcool. Il sentit enfin qu'il pouvait parler. « L'alcool, c'est l'alcool. Ça ne va pas durer. 2 heures tout au plus. Merde, tu as raison. J'avais complètement oublié, moi aussi. Tu veux que je te fasse quelque chose ? Ne te tracasse pas, ça va passer. Est-ce que tu ne ressens pas une douleur ? Curieusement, il n'y avait pas songé. Maintenant qu'on lui avait posé la question, il se rendait compte d'un violent tiraillement dans le cou et dans le thorax. Ainsi, Lambert avait raison. Le mal gagnait du terrain. La mort, peut-être, viendrait plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Dès qu'il serait rétabli, car maintenant il ne doutait plus que l'accalmie serait proche, il lui faudrait brûler les étapes, rencontrer quelques personnes qu'il voulait voir, passer chez le notaire. Emmènerait-il Chantal à Chauvigny ? Non, ce voyage il le ferait seul. Cela lui demanderait une journée tout au plus. Il faudrait tenter de rompre avec Chantal. La sonnerie du téléphone retentit curieusement dans son cerveau. Il entendit que Lambert décrochait. C'était Chantal. Il avait complètement oublié de l'appeler pour lui dire qu'il était bien arrivé. « Non, Chantal, ce n'est pas la peine de vous déranger. Je vous assure que la crise sera passée dans 1 heure ou 2. Rien que de très banal. Entendu, je vous rappellerai pour vous tenir au courant. » Il serait amusant de téléphoner à Corinne, pensa Bayo, de lui annoncer qu'il n'en avait plus pour longtemps, de l'inviter aux obsèques. Peut-être pourrait-il aller avec elle choisir une robe de deuil. Le noir s'alliait parfaitement avec le vert de ses yeux. Elle n'avait jamais été aussi belle, ni aussi désirable qu'à l'enterrement de sa propre mère. Le deuil sied à Electre, songea-t-il, sans qu'il pût savoir d'où venait cette phrase. Corinne lui reprochait toujours ces citations qu'il faisait sans cesse. Une situation de la vie lui rappelait toujours un épisode de roman, et il avait donné des noms de personnages de Balzac aux collaborateurs de son service. Montaigne aussi avait souffert dans son corps. Il lui arrivait de rester longtemps sans pouvoir bouger. Puis, la crise passée, il la décrivait en détail et allait se promener à cheval pendant des heures. « Il faudra que je relise Montaigne, » murmura-t-il à haute voix. Lambert se pencha vers lui. « Qu'est-ce que tu racontes ? Relire Montaigne ? C'est le délire qui commence ou quoi ?» Bayo se sentit mieux soudain et voulut se relever. Mais il fallut l'aide de son ami pour qu'il pût de nouveau s'asseoir dans son fauteuil. « Serre-moi un verre d'eau, veux-tu, et donne-moi une cigarette. » « Une cigarette ? Tu ne crois pas que... »« Laisse tomber tes conseils, docteur. J'ai besoin de fumer. Je me sens mieux. » 1 heure passa toutefois avant que Bayo pût se remettre debout. Il affirma que la crise était passée et reconduisit son confrère jusqu'à la porte. « Je te téléphone demain à 8 heures, » décida Lambert en lui serrant la main. « N'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. Alors, au revoir, Montaigne. » « Au revoir, la Boétie. » Bayo se dirigea vers son électrophone et mit un disque sur la platine. Il ne dormirait pas dans son lit, mais sur le divan. « Tout l'avantage d'être redevenu célibataire est là, » se dit-il. « Pouvoir dormir où l'on veut. Sur le carrelage de la cuisine, la moquette du bureau ou le paillasson du vestibule d'entrée. » Mais, au fond, avait-il jamais été autre chose qu'un célibataire ? Il écouta mourir le concerto en la mineur de Schumann, et il se souvint d'être tombé amoureux de Corinne par un soir d'octobre où, dans le salon de son père, elle exécutait au piano ce même 3e mouvement. Le soleil couchant jouait avec ses cheveux blonds, et l'on entendait dans le lointain le furtif passage d'un train.